Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Un Clap Cinéma à propos des retransmissions des opéras du Metropolitan de New York au Kinépolis de Nîmes. Et comme chaque année depuis déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et nous avons Roland. Nous avons le plaisir de recevoir Roland Massabuo. Bonjour Roland.
Et bonjour à tous.
Notre mélomane de Radio Alliance Plus. Qui...
Oui, c'est gentil.
Ben, tu hantes tous les lieux où il y a des opéras.
Pas tous, j'aimerais bien d'ailleurs, mais pas tous. Mais,
enfin, beaucoup tout de même.
Hein. Oui, oui.
Alors... Je crois qu'une année, on avait compté combien d'opéras tu avais vu dans ta vie. C'était impressionnant.
Ah non, dans ma vie, ça c'est incomptable. Non, mais différent, oui. Ça, je sais que je suis à peu près entre 360 et 370 différents.
Ah, différents.
Ah oui. Ouais. Après, bon, il y a des opéras qu'on peut voir très souvent. Les standards, Traviata, Rigoletto, Carmen, Faust, on les voit très, très souvent. Et il y en a qu'on ne voit qu'une fois. Quand on a, comme moi, la curiosité des œuvres en création, ben, on les voit une fois et puis ça disparaît de l'affiche.
Eh oui. Alors, cette année, il n'y a que 9 opéras retransmis. Ah oui. Hein, vous me disiez, je tutoie, je vous vois, on oscille entre les deux, voilà. Qu'au Metropolitan de New York, il y a une trentaine de titres dans l'année.
Grosso modo, oui.
Et nous, nous en avons 9.
Oui.
Et alors, la grande nouveauté de cette année, c'est que les 3 premiers, en octobre, en novembre et en décembre, sont des nouvelles productions et d'opéras contemporains.
Ouais, ça, c'est très remarquable. C'est surtout très audacieux. Alors, en fait, en France et en Europe, j'imagine, on ne conçoit pas nécessairement de manière automatique cette attribution des titres en tout début de saison au répertoire contemporain. Mais les statistiques sont là et il semblerait que dans les caisses du Metropolitan Opera depuis 2-3 ans,
les opéras contemporains
ont la faveur du public contre, parfois, les grands standards.
Bah, peut-être ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être lassés, justement, des classiques.
Il y a peut-être une autre raison aussi, c'est que la plupart des ouvrages contemporains qui sont montés au Metropolitan traitent de sujets sociétaux.
Mm.
Et ça, peut-être, le public des États-Unis est assez sensible actuellement, en 2023-24, à ce genre de propos. Tirés la plupart du temps de romans ou de récits qui rendent concerné le public.
Oui, alors qu'en France, c'est bon.
Il y a des créations. Moi, j'en vois une chaque année au Festival d'Aix-en-Provence. C'est souvent remarquable.
Ouais.
Il y a eu une création il y a 2 ans d'une compositrice nordique. L'ouvrage s'appelait Innocence. C'est un ouvrage qui était extraordinaire. Tellement extraordinaire que c'est un ouvrage qui va faire et fait le tour des grands théâtres mondiaux.
Alors, la saison commence donc des retransmissions par 3 opéras contemporains. Ensuite, nous parlerons dans cette première émission, puisqu'il y en aura 2 pour la saison 23-24. Ensuite, là, on tombe dans le plus classique, hein,
oui.
Nabucco et Carmen.
Ah, il faut.
Et puis, dans Carmen, c'est une nouvelle production.
Voilà, nouvelle mise en scène.
Et dans la seconde émission, ça commencera aussi par une nouvelle production, La Force du Destin. Donc, on n'en sait rien de toutes ces nouvelles productions. Vous êtes comme nous, hein,
c'est-à-dire
en attente.
Oui. Alors, peut-être dans la presse des États-Unis, ils ont peut-être pu avoir les photos des maquettes des décors, mais ça
peut-être
s'arrête là.
Ouais.
Voilà.
Peut-être. Et donc, ensuite, toujours dans la deuxième partie, beaucoup plus classique. Hein,
oui.
Donc, Carmen, on l'a vu dans la première émission. La Force du Destin, Roméo et Juliette, La Rondine et Madame
et
Butterfly.
Voilà.
Donc, ils essayent de faire un équilibre
au
niveau des retransmissions. Je ne sais pas qui choisit, puisque c'est dans le monde entier. Donc, il faut plaire à tous les publics. Il faut bien plaire.
C'est le défi.
C'est le défi. Donc, vous êtes en attente.
Oui.
Et bon, on va peut-être dire pour nos auditeurs, si jamais ils n'ont jamais entendu vos émissions, Roland, combien le Metropolitan est une ville dans une ville.
Ah, complètement. Ah, mais
et
complètement.
Que c'est une usine, j'allais presque dire aussi.
Oui,
hein,
voilà. Parce que les productions alternent tout au long de la semaine. Il y a, pour en faire bénéficier le public hors des États-Unis, les retransmissions donc en Europe et ailleurs, qui sont retransmises en direct le samedi soir chez nous en France et en Europe occidentale, mais pour eux c'est le samedi après-midi.
Après-midi, oui.
Et il n'empêche qu'une fois que le rideau est tombé, eh bien, on pousse les décors et on met en place le décor pour la soirée chez eux.
Oui. Et alors, ce qu'on le dit aussi chaque année, c'est que lors des entractes, on a des visions presque panoramiques.
C'est un privilège par rapport aux spectateurs.
C'est un privilège de voir justement le maniement des décors et puis les interviews avec les interprètes.
Bien
et
sûr.
Là aussi, chaque année, je trouve ça extraordinaire.
Ah,
vous
bien.
Voyez les chanteurs et chanteuses qui sortent, une concentration, et puis ils font coucou, ça va bien. C'est un métier difficile.
Ah,
et un métier, on les compare souvent aux sportifs de haut
très
niveau.
Haut niveau. Hein,
parce
sûr.
Qu'il faut vraiment être dans la création, dans chant, dans la difficulté.
On peut pas trébucher.
Technique, on peut pas trébucher. Et puis ils sont filmés de très très près.
Hein, là donc, aussi. Ouais. Et c'est très bien filmé aussi.
Et c'est très bien filmé, c'est sûr. Donc c'est au cinéma, c'est certain,
voilà.
Mais ça vaut vraiment la peine. Hein, c'est ce qu'ils appellent le HD Live. Et il y a un public tout de même très fidèle à Nîmes. Hein,
Nîmes, quand même, était tout au moins une ville. Les saisons lyriques ont disparu des affiches locales. Mais c'était un public très, très mélomane, très porté sur l'opéra. Ou les saisons, alors je n'ai pas tout à fait vécu ça, mais sur les saisons de ce qu'on appelle l'ancien théâtre, où il y avait vraiment de très très grandes saisons, très longues, tout au long de l'hiver, avec un nombre considérable d'abonnés.
Donc il en reste peut-être quelque chose, il en reste une tradition. Alors on va commencer par, donc la saison va de octobre à mai. Dans cette première émission, on va voir donc les 5 premiers, et on commence par les 3 contemporains. Pas de musique, bien évidemment, puisque ce sont des nouvelles créations. Ben, on écoutera Nabucco pour parler du classique après.
Voilà.
Alors, Dead Man Walking, c'est la dernière marche. Ils traduisent ça la dernière marche.
Oui.
Moi, je trouve que c'est plutôt le couloir de la mort.
C'est ce qui est la réalité, elle est là.
Ouais. Et donc, c'est de... Je cherche
de
le
Jake
nom.
Jake Eggy.
Vous connaissez ?
Non, de nom uniquement. C'est un compositeur... qui est né en 1960, autour des années 60. Alors cet ouvrage, c'est une première au Metropolitan, ce n'est pas une création mondiale. Cet ouvrage a été créé à San Francisco il y a à peu près une vingtaine d'années.
Ah,
mais ça entre au répertoire du Metropolitan uniquement cette saison, pour l'ouverture de la saison justement.
Et je vois que c'est Yannick Nguessegain qui dirige.
Voilà, alors ça c'est quand même un événement que je trouve assez formidable pour moi.
Il est là 4 fois sur les 9, hein. C'est vraiment le...
Ah ben c'est le chouchou. C'est devenu très très vite le chouchou du public new-yorkais. C'est un chef d'orchestre aux activités multiples, parce que c'est un Québécois qui parle évidemment français. Hormis ceci, il est chef invité ou titulaire de plusieurs grands orchestres internationaux. Et il enregistre énormément d'ouvrages.
Il est très talentueux,
ouais.
Et puis il aime changer la couleur de ses cheveux, ses chemises.
C'est un homme d'aujourd'hui.
C'est un homme d'aujourd'hui, et c'est très bien parce que ça dépoussière peut-être un peu
bien
justement
sûr.
L'opéra.
Et donc après, James Levine, qui est resté un nombre incalculable de décennies à la tête du Metropolitan, c'est donc Yannick Nguessegain qui prend la baguette et qui la tient fermement.
Alors, vous disiez les sujets sociétaux, là, c'est le couloir de la mort.
Oui.
On connaît
oui.
le problème de la justice aux États-Unis.
Tout
on connaît
fait.
Le nombre de personnes comme ça qui attendent dans le couloir de la mort, parfois depuis des décennies.
Oui.
Hein. Et
grâce au ciel, en France, on n'a pas ce genre de soucis.
Ça vous intrigue, ce livret
Oui, le sujet me passionne. Je trouve ça assez inédit qu'on puisse mettre ça en musique, d'abord. Et défendre. Alors, et en plus, faire une création, faire entrer au répertoire un ouvrage comme ça, c'est déjà extraordinaire. Ce qui est encore plus extraordinaire, je trouve, à mon sens, c'est de permettre à des stars internationales d'intégrer ces créations.
Oui,
et là, on va
dire
Joyce Dillard,
ouais.
qui est quand même un monument.
Ouais.
qui est extraordinaire.
Ah oui, c'est une cantatrice extraordinaire. Alors, l'éventail de ses possibilités est tout à fait étonnant. Elle va de l'opéra baroque à Handel jusqu'à l'opéra contemporain. Elle est infatigable, elle donne des masterclass partout à travers le monde.
Et là aussi, elle a une personnalité, c'est un monument. Une énergie.
Elle chante Rossini comme peu de cantatrices peuvent le chanter. Et voilà, elle n'est pas seule. Et ensuite, il y a une autre formidable cantatrice dans la distribution qui s'appelle Susan Graham, qu'on a beaucoup vue il y a quelques années, qui avait un petit peu disparu des écrans, et qui revient. Donc, grand duo et grand duel en perspective.
Donc, en fait, c'est un défi de lancer du contemporain, mais avec tout de même des valeurs sûres. Hein. C'est-à-dire, quand à l'affiche, il y a Yannick Nexet-Séguin, Joyce DiDonato, et puis je vois que la mise en scène est de Ivo Van Hove, donc on connaît aussi...
Ça aide aussi quand même pour le guichet, je veux dire.
Il y a tout de même un enjeu financier, hein. Ça coûte tellement cher.
On ne peut pas le nier.
Et ça s'est
donc,
préparé
ça,
combien
ça sécurise un petit peu la production.
Ça se prépare combien d'années à l'avance
Alors, aux États-Unis, c'est sensiblement pareil qu'en Europe. On peut dire qu'on est fin 23. Déjà, on peut parler de contrat pour fin 25-26. Au moins 2-3 ans, oui. Pour les vedettes, bien sûr. Hein. Ouais. Et pour l'achat de production ou les coproductions.
Et oui, il y a tout l'aspect administratif, commercial.
Et de plus en plus, heureusement d'ailleurs, les théâtres internationaux s'appuient sur les coproductions. C'est-à-dire que ça divise les frais de décor, de costumes, de chaussures, de perruques, tout ça.
Parce que justement, on voit quelquefois dans les entractes, on nous montre les coulisses, on nous montre les vêtements, les costumes.
Bien
c'est
sûr.
Très important, les costumes également.
Tout à fait.
Le second sujet, là aussi, peut-être moins d'actualité, mais un sujet sociétal sur la ségrégation, la condition des Noirs, c'est X, la vie de Malcolm X.
C'est ça.
Et là aussi, Anthony Davis, moi je ne connais pas.
Qui est un Américain également.
Oui.
Là, c'est un ouvrage qui est un peu plus ancien, ça a été créé en 1986, sur un sujet bien sûr particulièrement Malcolm sensible aux États-Unis, avec le personnage de Malcolm X, c'est-à-dire le militant contre le racisme. Et c'est un ouvrage, d'après les éléments que j'ai trouvés et cherchés, qui donne le récit de sa vie jusqu'à son assassinat, qui a eu lieu en 1965.
Vous connaissez le chef d'orchestre, Kassem Aboula?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non. Et donc, je pense que c'est une première pour lui, à ma connaissance, sur la scène du métropolitaine.
Donc il y a vraiment une volonté. Là, il n'y a pas la sécurité de Dead Man Walking où il y a les grandes vedettes.
Oui.
Donc je crois au contraire qu'il faut, si vous avez des hésitations, il faut aller voir.
Alors en plus, l'avantage de cette production, et qui peut concerner un public légèrement différent, c'est que c'est quand même, d'après les éléments que j'ai pu obtenir, une partition qui flirte beaucoup avec le jazz.
Ouais.
Donc, ça peut amener également...
Ça plaît ou ça ne plaît pas.
Oui, mais ça peut amener une clientèle différente.
Un public nouveau.
Oui, absolument.
D'accord. Alors, je n'ai pas dit la date du second, c'est le samedi 18 novembre, donc ça fait à peu près un par mois. Le samedi 9 décembre, c'est toujours vers 19h, Florentia sur l'Amazonie, donc voilà, également une nouvelle création. Et là, c'est de Daniel Catan.
Ouais,
c'est un Espagnol.
Non, c'est un Mexicain.
Mexicain.
Oui, c'est un compositeur mexicain.
Voilà.
Et l'originalité de cette idée, de cette réalisation, c'est que c'est un ouvrage qui va être chanté en espagnol.
Ah voilà pourquoi je dis espagnol. C'est rare, hein, je vous disais.
C'est relativement rare, surtout au niveau international.
Ouais.
Et c'est un ouvrage qui a été créé il y a 20-25 ans à peu près. Et qui, alors... Je ne vais pas dire suit fidèlement, mais s'appuie un petit peu sur l'un des romans de Garcia Marquez, qui est L'amour au temps du choléra. Et c'est une histoire qui se passe sur un navire qui flotte sur le fleuve Amazonie. Et le but, si vous voulez, de cet ouvrage, c'est de faire entendre les turbulences de l'amour.
Beau programme.
C'est un vaste sujet.
Il y a beaucoup à dire.
Vaste sujet.
Et alors, sur l'Amazonie, alors ça doit prendre
une dimension exotique.
On n'est pas sérieux, franchement. Mais, et au niveau des chanteurs,
Au niveau chanteur, le rôle principal, qui est Florence, qui est chantée par Aileen Pérez, qui est une cantatrice qu'on voit trop peu, malheureusement, en Europe, cantatrice du continent américain, qui est l'une des grandes chanteuses favorites du public américain maintenant. Oui.
Et elle est jeune, parce qu'on a vu depuis une dizaine d'années que nous faisons les émissions ensemble.
Oui, aussi.
On a vu
non, c'est une génération moyenne, on va dire.
Génération moyenne. Ouais. Donc, je suis très curieuse, moi, de voir toutes ces,
ah oui, moi aussi.
Toutes ces productions. Alors, je répète, on n'a pas pu, on ne peut pas écouter, hein, puisque c'est des...
Donc,
il faut venir dans les soirées, acheter ses billets au Kinépolis et venir voir tout cela. Et comme on n'a pas de musique et qu'on va annoncer l'année 2024 avec Nabucco le samedi 6 janvier, on change carrément de registre et on écoute. Je suppose que vous avez choisi le cœur des esclaves.
Fatalement.
Fatalement. Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Roland Massabuo. Merci Roland
avec
de
plaisir.
Nous parler toujours avec passion de ces opéras. Donc trois contemporains en début de saison. Et puis en 2024, le samedi 6 janvier, Nabucco, Verdi.
Et
je
ne
pense pas qu'il n'y a pas une saison sans Verdi au Métropolitain.
Oh, mais en Europe non plus.
Oh, en Europe non plus. J'aurais dû me taire.
Non, non, je n'ai pas dit ça.
Alors, ce Nabucco, on l'a déjà vu dans cette version.
Oui, oui, hein. C'est pas une nouvelle production. Là.
Mais, le peuple hébreu, malheureusement, c'est d'actualité.
Hélas.
Hein, puisque nous
dramatiquement, oui.
Dramatiquement. Hein, c'est un contexte vraiment politique absolument terrible,
troublant.
Ce peuple hébreu est sous le joug de Nabucodonosor. Et là, nous avons une direction musicale, Daniele Calieggan.
Oui,
donc,
qui est un chef d'orchestre, disons, solide et qui s'adapte parfaitement à ce genre de répertoire.
Alors, c'était le premier grand succès de Verdi. Dans le petit livret du Kinépolis, il y a marqué « envoûtant et passionnant ».
Oui, alors en fait, vous savez, alors, j'ai eu une réflexion il y a quelques jours avec un de mes amis fou d'art lyrique qui vit et travaille à Paris. Et on se faisait la réflexion l'un l'autre en buvant un verre à la terrasse d'un bar nîmois, c'est que Nabucco, c'est un ouvrage qui est devenu populaire, mais qui n'a pas toujours été, parce que dans les années 60-70, c'était presque une rareté.
Ah bon ?
Comme Turandot.
Alors que maintenant, c'est devenu...
Presque inévitable dans les grandes saisons.
Ouais.
Turandot, pareil. Mmh. Parce que dans les goûts et dans les modes aussi, parce qu'il y a des modes dans le théâtre. Mmh.
Mais c'est peut-être les grands chœurs, on a écouté le chœur des
Bien sûr, ça a terriblement joué.
Ouais.
Et alors, ça, c'est peut-être ce qu'on appelle un faux ami, parce que le public qui vient voir pour la première fois Nabucco et qui connaît uniquement le cœur des esclaves, qui est relativement court,
ouais,
pense que Nabucco se réduit à ça. Non, ça ne se réduit pas à ça et le reste est moins connu. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que le rôle Nabucco est un rôle très, très exigeant, mais celui qui est encore plus exigeant, c'est le rôle de la soprano, dont le rôle s'appelle Abigail, qui est un rôle monstrueusement difficile.
Mmh. Oui, il faut insister sur la difficulté.
Ah, ouais.
Là, nous reparlons des retransmissions filmées, donc on voit de très près, on peut admirer. Ah, je le redis aussi chaque année, on est presque mieux placé que...
Ah, ça c'est sûr, que n'importe quel fauteuil du métropolitain.
Mais ça ne remplace pas, ils le disent à chaque fois, hein, quand ils disent « donner des dons », etc. La présence,
bien
et vous.
Sûr, le théâtre vivant.
Vous qui arpentez justement toutes les salles, pas assez à votre goût.
Non,
mais,
pas assez.
Mais bon, déjà pas mal. Hein,
oui, correct.
Nous, on va se limiter aux retransmissions
alors,
du métropolitain.
L'originalité, si vous voulez, de cette production, c'est qu'en fait, les deux rôles principaux sont réservés à des artistes de l'Est. Mmh. Un géorgien et une ukrainienne. Et c'est un ouvrage...
C'est un choix politique ?
Non,
je
ne pense pas. Parce que les deux sont des habitués, entre
D'accord.
guillemets, de la scène du métropolitain. C'est très intéressant de les voir chanter, de les entendre, bien sûr, de les voir chanter, parce que ce sont deux rôles, j'allais dire, et je le dis d'ailleurs, très physiques.
Mmh.
Où il faut vraiment être en pleine forme
cette
physique.
Cette énergie,
ah, oui,
cette force.
Surtout pour le rôle d'Abigail, la soprano dramatique. Ça c'est clair. Oui, oui.
Ah, oui.
Et donc, je pense que dans les théâtres européens, tout au moins, je pense que je m'avance pas trop en disant ça, je pense que Nabucco va un peu rééquilibrer le nombre des entrées depuis le début de la saison, qui pourrait être légèrement en retrait avec les trois ouvrages contemporains qui sont à l'affiche.
Sabot est à la mode aux États-Unis.
Oui.
On reprend sur ce...
Oui.
Donc on insiste, bien sûr, nous, on fait une émission de cinéma, on fait une émission artistique, mais il faut comprendre tous ces enjeux, bien sûr, financiers, administratifs, qui sont énormes.
Mais oui.
Alors ça explique peut-être qu'au mois de janvier, il y a aussi Carmen qui va finir notre... Première émission, Carmen le 27 janvier. Alors là aussi, c'est le standard, hein, Bizet.
Ah, oui.
On va écouter en générique de fin...
L'air de la fleur.
L'air de la fleur.
Forcément.
Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire sur Carmen ?
Ah, parce que,
c'est
sur
une
Carmen,
nouvelle production.
Oui, voilà. Donc, mystère. mystère parce que c'est une Carmen donc, avec le regard inattendu d'un Anglais.
Mmh.
Que va faire le réalisateur anglais.
Mais moi, j'aime beaucoup ce que font les Anglais.
Ben oui,
dans
bien
les
sûr.
Opéras,
en cinéma
et dans les
aussi.
Ballets
oui,
aussi.
Bien sûr, oui.
Ils ont une.
Donc là, le regard sur Séville et le Guadalquivir va être intéressant à suivre.
Ils vont nous les habiller comment en écossais
oh, Peut-être pas. Non, c'est pas un sacre royal, mais bon, on va. Alors,
non, mais
l'intérêt musical.
Justement,
oui.
Sur les mises en scène,
bien
aussi,
sûr.
Les costumes. Hein,
ah,
Dieu sait que ça fait couler beaucoup d'encre parfois, des transpositions dans des époques très, très bizarres.
Oui, oui.
Mais là, on ne sait pas. Quoi.
Ah, du tout. La seule chose qui est sûre, c'est que musicalement, ça va être passionnant parce qu'il y a le jeune chef italien qui s'appelle Daniele Rusturni, que je connais un petit peu et que beaucoup de Français connaissent bien. D'abord parce qu'il a dirigé une année au Corrigi d'Orange. Et ensuite, c'est le chef de l'Opéra de Lyon la direction de l'Opéra de Lyon permet à ce jeune chef, qui est encore jeune, d'aborder des répertoires qui ne sont pas uniquement les répertoires de son pays. Et ça, c'est assez passionnant. Magnifique chef.
Merci à vous, Roland. Donc, je rappelle, dans cette première émission, donc, on a parlé de 5 retransmissions. Les trois premières, en octobre, novembre, décembre, sont des opéras contemporains. Et en janvier, de standards, de classiques, Nabucco, Carmen.
C'est ça.
Et nous finissons avec Carmen.
Bien sûr.
Chose à toi.